Chers amis, soyez les bienvenus ici, chez vous, chez l'Institut culturel Quetzalcoatl. Comment allez-vous? Bien. Nous allons commencer la conférence d'aujourd'hui. Nous étudions ici, dans l'Institut culturel Quetzalcoatl, et les connaissances gnostiques. Et dans cette connaissance gnostique, nous avons les connaissances des univers parallèles. Il est très important que nous sachions que ces mondes n'est pas seulement tridimensionnel. Ce monde, cet univers, la nature, n'est pas seulement tridimensionnel. Euclide, ces mathématiciens grecs, nous parlent des trois dimensions basiques de la nature, qui sont la longueur, la hauteur et la profondeur. Ces trois dimensions que nous pouvons percevoir dans tout ce qui nous entoure. Mais ces trois dimensions ne sont pas les seules. L'être humain s'est peu à peu dégénéré au fil du temps. Nous sommes tombés de plus en plus bas dans des vices, dans des choses négatives et des abus. Et tout cela fait que nous avons perdu des sens que nous avions dans notre temps. Nous n'avons d'aujourd'hui que 5 sens et ces 5 sens s'atrophient de plus en plus. Nous ne sommes plus en mesure de voir les différentes dimensions de la nature, mais cela ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Elles existent bel et bien. Elles continueront d'exister parce qu'elles font partie de la constitution du monde et de l'univers. Si vous vous souvenez de certaines de nos conférences et de certaines de nos courses où il était question de sept chakras fondamentaux, de sept notes musicales, de sept races humaines d'une planète, de sept sous-races, de chacun des races d'une planète, alors ne vous étonnez pas que nous parlions aussi de sept dimensions fondamentales dans la nature. Le monde et la nature est donc multidimensionnel, et cette dimension forme la base même de la nature. Ces sept dimensions fondamentales s'interpénètrent sans jamais se mélanger. Et nous y vivons sans pouvoir capter la totalité. Nous ne pouvons en voir que 3 parmi les 7 dimensions. Nos sens ne nous permettent que de percevoir 3. C'est comme si quelqu'un pouvait observer que 2 dimensions, on ne peut voir que les ombres de tout ce qui existait, qu'on lui dise. Mais non, regarde, il existe 3 dimensions, les choses sont colorées, et elles ont de texture, et elles ont de la profondeur. Et cette créature ne nous croirait pas. Parce que son monde ne serait fait que d'ombres, et il ne verrait donc que des ombres, 2 dimensions seulement. Cet exemple nous montre vraiment comment nous percevons les choses. Nous ne voyons que les textures, les couleurs, les formes, mais la nature est heptadimensionnelle. Il existe beaucoup de dimensions dans la nature, mais nous ne pouvons capter que ce monde physique ou monde tridimensionnel, le monde d'Euclide, avec ses 3 dimensions. Car nous ne percevons que la longueur, la profondeur et l'altitude des choses. Était ainsi. Les mathématiciens, les physiciens, les sages nous ont déjà parlé d'un 4e coordonnée, un 4e vertical. Ils ont trouvé dans le calcul mathématique une 4e dimension. Albert Einstein nous a parlé de l'hyperespace. Nous sommes déjà entrés d'entrapercevoir qu'il existe quelque chose d'autre au-delà. Au-delà de notre monde tridimensionnel, de notre monde physique. Alors, ce monde devient multidimensionnel. La science a beaucoup de retard à ce sujet à cause des instruments existants très limités qu'elle possède pour faire ses recherches. En fait, les dernières théories de la physique nous parlent de la nécessité d'avoir 10 dimensions dans la nature pour encadrer ces théories de la nature dans des parties la plus petite. Alors, les mathématiciens, les physiciens, se sont approchés à ces réalités de la multidimensionnalité déjà. Les sages de l'Antiquité n'étaient pas limités comme nous. Si nous ne réfléchissons pas un peu au fait qu'il existe un monde multidimensionnel, comment expliquer alors, chers amis, tant de faits qui se passent dans la nature et qui n'ont pas d'explication. avec notre intellect et notre raisonnement, avec toutes nos études, nous essayons de trouver des explications qui ne sont pas satisfaisantes, parce que nous ne contemplons pas la multidimensionnalité de la nature. Nous parlons par exemple, chers amis, de ce genre de phénomène que saint François d'Assise a montré lors de ses lévitations. Il flottait dans les airs. Parlons aussi du maître Yeshua ben Pandira, connu sous le nom du maître des maîtres, Jésus de Nazareth, qui pouvait marcher sur les eaux, et qui multipliait les pains et les poissons, juste comme ça. Cela, évidemment, n'élève en rien la maîtrise de ses grands maîtres, de ses grands initiés comme Milarepa, qui flottait aussi dans les airs, ou les disciples du Bouddha, qui arrivaient à traverser les roches, ainsi que beaucoup d'autres maîtres dans l'histoire, qui sont arrivés à faire des prodiges extraordinaires, qui se basent justement sur cette multidimensionnalité de la nature. Souvenons-nous des disparitions des bateaux, d'avions et de beaucoup d'autres choses qui ont été signalées dans ces fameux triangles des Bermudes et dans beaucoup d'autres endroits dans le monde. Des cavernes s'ouvrent soudain et des personnes peuvent y entrer et elles ne ressortent qu'une année après. Beaucoup de phénomènes de ce genre se produisent dans le monde. Souvenons-nous, Honduras et dans certains endroits dans le monde où on était bu des pluies de poissons. Nous ne pourrions pas expliquer tous ces phénomènes sans penser ou sans nous baser sur l'existence d'autres dimensions de la nature. Tant, chers amis, que nous n'étudierons pas ces dimensions, il nous sera très difficile d'expliquer tous ces curieux phénomènes qui se passent dans le monde. Nous devenons de plus en plus matérialistes. Oui, bien sûr, nous sommes de plus en plus sceptiques. Et ce matérialisme et ce scepticisme nous débordent entièrement, ne font que nous dégénérer encore plus et nous font perdre ces facultés latentes que nous avons en nous-mêmes. Nous avions les couleurs. Dans la Lémurie, par exemple, la troisième race humaine de cette planète, il était possible de voir les couleurs de la moitié d'un Oltapannas. Un Oltapannas, ce sont 5,5 millions de tonalités de couleurs. De même pur l'odorat. Ce sens s'est de plus en plus dégénéré. Et nous avons complètement perdu ce pouvoir de clairvoyance. Nous ne parlons pas de cette clairvoyance dont on nous parle à la télévision ou de toutes ces personnes qui déclarent voir ou de ces voyantes qui nous prédisent l'avenir. Non, mes chers amis. Car nous ne sommes pas en accord avec ces charlataneries. Nous parlons des facultés que nous avons perdues et que nous pouvons retrouver et qui ne ressemblent pas à ces spectacles que l'on peut voir à la télévision ou à ces personnes qui n'émbulent qu'à notre argent. Nous parlons de la véritable clairvoyance qui nous permet de voir l'ultra de la nature, qui nous permet de voir la quatrième dimension et la cinquième dimension. Et il existe encore plus de facultés qui sont encore plus exaltantes, comme l'œil de Dharma, dont parlent les orientaux, qui nous permettait de voir le monde de l'esprit pur. Eh bien, ces facultés, nous les avons complètement perdues, ces facultés que nous avons atrophiées déjà. La clairvoyance s'atrophie à cause de la haine, de l'angoisse, du désespoir, de l'impatience, à cause de tous les défauts psychologiques de la colère, de l'haine. Cette faculté de la clairvoyance est complètement atrophiée et nue. Si nous l'avions, nous pourrions percevoir la nature de façon très différente, la voir comme elle est réellement. Nous pourrions synthétiser toutes ces facultés en une seule. Elle est connue comme étant le sens spatial. Le sens spatial est la capacité de percevoir le monde dans toutes ses différentes dimensions existantes. De nos jours, notre sens spatial s'est réduit uniquement à notre monde physique, que nous appelons aussi monde tridimensionnel. Nous ne pouvons voir que notre monde tridimensionnel, notre monde physique. C'est la seule chose que nous pouvons percevoir aujourd'hui avec notre sens spatial. Mais notre essence spatiale pourrait se développer si nous éliminons les défauts psychologiques que nous avons dans notre intérieur. La colère, l'orgueil, la paresse, la gourmandise, l'envie, la vanité, l'autoimportance, l'autosuffisance, l'orgueil mystique, la mythomanie, la luxure, et des milliards d'autres défauts psychologiques. Si on les détruisait, si on les pulvérisait dans notre propre intérieur, alors notre sens spatial se développerait de façon graduelle, peu à peu, et il nous permettrait de percevoir la quatrième dimension, ou monde éthérique, ou appelé aussi le monde vital, parce que c'est le monde, ou c'est les dimensions, qui donnent des vitalités à la créature vivante du monde physique. C'est ce que nous pourrions arriver à faire et plus tard, avec le développement obtenu, avec la mort de nos défauts psychologiques, nous pourrions arriver à voir la cinquième dimension, ou la sixième, et peut-être même la septième dimension de la nature. Voilà ce que nous pourrions faire. Bien sûr, ceux qui peuvent percevoir la septième dimension, ce sont par exemple un Quetzalcoatl, un Hermès Trismégiste, des maîtres comme un Krishna, Jésus de Nazareth, Bouddha, Zoroastre. Nous autres, nous devons commencer à stopper, premièrement, notre dégénérescence, pour que peu à peu nous arrivions à éveiller le sens spatial qui nous permettrait de pouvoir capturer les différentes dimensions de la nature. Nous pourrions nous comparer avec les animaux de la nature. Par exemple, il existe des animaux inférieurs comme les escargots qui n'ont seulement que des sensations. Ils sentent que la feuille est sèche ou que la feuille est fraîche et qu'ils peuvent la manger. Ce sont des animaux inférieurs et nous pouvons dire que ce sont des animaux unidimensionnels, c'est-à-dire qu'ils n'ont que des sensations. Seulement sensations pour percevoir la nature. Il y a, bien sûr, des animaux de caractère supérieur, comme les chevaux, comme les chats, comme les chiens, comme les cerfs, etc. Ces animaux supérieurs n'ont pas seulement des sensations, mais ils sont de plus des perceptions. Ils sentent et perçoivent le monde de façon différente, oui, mais de manière bidimensionnelle parce qu'ils ont des sensations et des perceptions. Ils sont deux dimensions, deux possibilités pour capter, pour percevoir le monde, la nature autour. Prenons l'exemple d'un chien qui est dans une voiture et qui sort la tête par la fenêtre. Il voit les poteaux électriques et les cabines téléphoniques qui défilent comme s'ils marchaient, comme s'ils bougeaient. Et nous aussi, on les voit de cette manière. Lorsque nous sommes en voiture, dans un bus ou dans un train, on dirait que les poteaux passent devant nos yeux et repartent ensuite. Les animaux supérieurs ont des sensations et des perceptions et voient le monde ainsi. Mais l'animal intellectuel, c'est-à-dire nous, les êtres humains, en plus des sensations et des perceptions, nous avons des concepts. Notre mental corrige donc les perceptions et il sait que les poteaux électriques que l'on voit passer ne bougent pas, mais c'est ainsi qu'on les perçoit. C'est les concepts qui corrigent ce que l'on perçoit. Lorsque l'on voit, par exemple, au loin des arbres tout petits, comme s'ils mesuraient quelques centimètres, notre concept corrige notre perception et ainsi on sait qu'ils sont petits parce qu'ils se trouvent très loin. Nous les percevons de cette manière. Avec les concepts, avec le mental, nous corrigeons donc notre perception. C'est pour cela que si nous développons ces facultés qui sont latentes dans l'être humain, nous pourrions voir les différentes dimensions de la nature. Nous pourrions dire alors qu'il existe sept dimensions fondamentales. Cet monde qui s'interpénètre sans jamais se mélanger et que nous ne pouvons pas percevoir. C'est dans ce monde physique qui a trois dimensions que nous pouvons capter à travers la fenêtre de nos cinq sens. Ce monde tridimensionnel avec une hauteur, une profondeur et une longueur dans tout ce qui nous entoure. C'est le monde physique tridimensionnel. Mais au-delà de ce monde physique, il existe une quatrième dimension qui est le monde vital. Au-delà du monde vital, il existe une cinquième dimension qui contient deux mondes qui sont le monde astral et le monde mental. Et au-delà de la cinquième dimension, il y a la sixième dimension où se trouve le monde de la volonté et le monde de la conscience. Et encore au-delà, nous avons le monde de l'être. Il existe donc ces dimensions, cet espace, ce monde, ces dimensions de la nature. Beaucoup de choses seraient impossibles sans l'existence de ces dimensions supérieures. Même la vie ne serait pas possible dans le monde physique si le monde vital n'existait pas. C'est pour cela que dans le monde et dans l'agnose, nous l'appelons le monde vital, car c'est lui qui donne vie aux créatures vivantes du monde physique. Voilà donc les sept mondes, les sept dimensions. Physique, vital, astral, mental, le monde de la volonté et ou causal, le monde de la conscience ou de l'âme et le monde de l'être ou de l'esprit. C'est la loi du sept qui organise la nature, la loi de l'hepta-para-parshinok. Hepta, para-parshinok. Une loi de sept qui organise et perfectionne tout dans la création. C'est pour cela qui doivent se développer les sept véhicules, les sept corps, pour que l'on puisse émouvoir, s'exprimer dans chacun de ces dimensions, de ces sept dimensions de la nature. Ils seraient les corps physiques, les corps vitaux, les corps astrales, les corps du mental, les corps de la volonté ou causal, les corps de la conscience ou de l'âme et les corps de l'être. La théosophie antique nous parle de ces sept corps, Paracelse, et nous parle dans ce texte aussi de ces sept corps, et non seulement dans ces textes, mais à travers le monde de tout au long de l'histoire, on nous parle de ces sept dimensions et de ces sept corps. Par exemple, l'arbre de la vie, et la cabale hébraïque merveilleuse à étudier, de par sa profondeur, il y a les séphirot, les dix séphirot de la cabale. Eh bien, les sept premières correspondent à ces sept dimensions et à ces sept corps. Dans la cabale hébraïque, on appelle Malkout le monde physique, Yesod le monde vital, Hod le monde astral, Netzach le monde mental, Tiferet, le monde causal ou de la volonté, Hebura, le monde de l'âme ou Yebura, et Chesed, le monde de l'être. Voilà ce que nous dit la Kabbale hébraïque. Elle nous parle des dix séphirot, mais les sept premières correspondent aux sept dimensions et à ces sept corps que nous devons développer. Et comment, si ce n'était pas assez? Dans l'an millénaire, les sages réussirent à connaître ces corps parce qu'ils avaient éveillé leurs facultés et ils leur donnèrent un nom, Stulasariga, pour les corps physiques. C'est ainsi qu'on appelait les corps physiques, mais l'an millénaire en langage sanskrit, le langage sacré en Inde. Stulasariga était le nom du corps et du monde physique. Lingam Sariga est le nom pour le corps et le monde vital. Il s'appelait l'astral Kamas. Le monde mental, le Manas, inférieur. Celui de la volonté, c'est le Manas, supérieur. Celui de la conscience, il l'appelle Buddhi. Et celui de l'être, Atman, l'ineffable. Voilà donc en sanskrit le nom des sept mondes et aussi de nos sept corps. Voilà les informations qui nous ont été données dans le monde et que nous pourrions, en développant nos facultés graduellement, nous pourrions connaître et expérimenter toutes ces dont nous sommes en train de parler ici, mes chers amis. Nous allons donc étudier chacun de ces régions de la nature Et commençons par les plus denses, le monde physique. Le monde physique qui nous entoure, malgré tant d'instruments utilisés et tant de recherches faites parce que nous pensons toujours être très importants et connaisseurs de celui-ci, parce que nous avons réussi à découvrir, par exemple, les plans du génome humain, ainsi que bien d'autres choses. Nous ne connaissons en réalité même pas une millième partie de ce qui se passe réellement dans ce monde physique, dans ce monde tridimensionnel. Il y a encore beaucoup de choses qui échappent à nos investigations. Dans ce monde physique, nous vivons avec les corps en chair et en os, avec ces corps tridimensionnels, avec ces corps matériels, charnels. C'est notre véhicule physique à travers lequel nous bougeons et nous vivons dans notre monde physique. C'est la première partie la plus dense, la plus matérielle. Dans la Kabbale hébraïque, on l'appelle le règne. Il est dit que c'est un filtre très spécial car il ne laisse pas passer ce qui est indigne. Et la majorité d'entre nous restons ici dans la matière, dans le monde tridimensionnel, et c'est l'unique chose que nous pouvons percevoir. Mais au-delà du corps physique et du monde physique, il existe un monde vital ou le monde éthérique. Ce monde vital est la quatrième dimension et Albert Einstein nous en parle comme étant l'hyperespace. Cet hyperespace ou quatrième dimension ou quatrième verticale, c'est le même monde éthérique. Le monde vital que l'on connaît comme l'Éden. L'Éden de la Bible. Il y a plus de 18 millions d'années, l'être humain vivait dans la quatrième dimension, dans l'Éden. Adam ne représente pas une personne. Adam représente les millions d'êtres humains qui existaient dans la troisième race humaine de cette planète Terre. La race lémur, qui eut la Terre. Et Ève représente les millions de femmes qui vivaient aussi dans la race lémur. Il y a 18 millions d'années, nous vivons dans l'Éden, dans la quatrième dimension, et il y a 25 millions d'années, tout appartient à tout le monde. Tout le monde vivait en harmonie. Les tiens ou miens n'existaient pas. Tout le monde pouvait se servir sur l'arbre de son voisin sans que celui-ci ne se mette pas en colère. On vivait complètement en syntonie avec l'univers, avec le cosmos infini. Mais il y a 18 millions d'années, nous avons commencé avec l'agrégat psychologique, avec les moi psychologiques, l'ego apparu. Nous sommes tombés en mangeant les fruits défendus. Nous avons abusé de notre sexualité et nous avons fait mauvais usage de nos énergies sexuelles. Nous fûmes expulsés de l'Éden, de la quatrième dimension, et cela fait 18 millions d'années que nous sommes là, dans ce monde physique. Voilà comment cela s'est passé. Mais la quatrième dimension existe toujours. Voilà donc ce qu'est la quatrième dimension. C'est le monde éthérique, le paradis dont parlent les religions et qui a été appelé de différentes façons dans les différentes cultures du monde. C'est dans cette quatrième dimension qui vivent les élémentaux de la nature. Ces créatures innocentes qui, avant le 18e siècle, nous pouvions encore percevoir de temps en temps. Nous parlons des fées, des lutins, des sylphides, des sirènes, des titans, des pygmées, des gnomes, des salamandres, des ondines, des naraïdes, et des milliards d'autres noms qu'on leur donne dans le monde entier. Tellement de coïncidences qui existaient dans autant de cultures, dans le monde sur l'existence de ces créatures innocentes de la nature. Elles existent et continueront d'exister. Mais c'est à partir du 18e siècle que notre mental a été infasté par le scepticisme et par le dégoûtant matérialisme que nous avons perdu la faculté de voir même si ce n'était que de temps à autre. C'est buté de l'âme de la nature. Les gnomes et les pygmées continuaient d'exister dans nos plantes, sur nos murs, sur nos toits de maisons, sur le sol, dans les arbres. Les sylphides et les sylphes continuaient d'exister chez les oiseaux, chez les rapaces, les ondines et les néraïdes continuaient à vivre dans les lacs, dans les nuages, dans la pluie. Mais nous avons perdu les sens qui nous permettent de les percevoir. Ils continuent à vivre même si nous ne croyons pas en eux. Et ces créatures se moquent bien de savoir si nous croyons en eux ou pas. Ces créatures sont la vie dans la nature, la vie dans les plantes. Après 50 000 expériences, les scientifiques sont arrivés à la conclusion que les plantes avaient de la sensibilité. C'est là les petits grands-mères d'entente les savaient depuis longtemps. Bien sûr. Mais de nos jours, nos scientifiques avec beaucoup d'instruments électriques, électroniques, d'appareils électroniques, ont réussi à détecter les sensations des plantes. Et ils ont pu voir, par exemple, que lorsque quelqu'un entre abîme une plante, ils enregistraient une altération de celle-ci dans leurs appareils très sensibles. Ils se sont aperçus aussi que lorsque cette même personne s'approchait de nouveau à cette plante sans rien faire, celle-ci réagissait car ils enregistraient encore une altération, comme si la plante se souvenait que c'était cette personne qui lui avait infligé une souffrance. Beaucoup d'expériences sont en train de se faire à ce sujet, et les scientifiques élaborent une nouvelle théorie disant que les plantes sont vivantes, sont capables de ressentir les choses, etc. Les petites grand-mères d'entente savaient tout cela depuis des centaines d'années. Elles parlaient aux plantes et en prenant soin. Mes amis, ce sont des éléments de la nature. Nous ne pouvons pas les voir. Cela ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Les plantes sont sensibles. Les plantes sont les corps physiques, des éléments de la nature qui vivent dans la quatrième verticale. Ils ne sont pas prisonniers dans les plantes. Ils sont dans la quatrième dimension. Leurs corps physiques sont leurs véhicules, leur maison. C'est ainsi. Lorsque l'on se fait hanter ou une infusion, par exemple, pour guérir une maladie, il faut savoir que ce qui nous guérit, ce n'est pas les cadavres de la plante, mais la vie contenue dans la plante. Cela veut donc la peine que l'on bénisse les plantes et qu'on ne les coupe pas comme ça d'un coup avec violence. Il faut leur demander la permission. Lorsque l'on fait la cuisine, nous travaillons avec toute une magie élémentale. Si nous revenions à ces temps anciens, nous nous alimenterions bien mieux, parce que les plantes sont vivantes. Les minéraux ont, eux, aussi de la plante. De la vie. L'or, l'argent, le cuivre, le fer ont la vie en eux. Cette vie se trouve dans la quatrième verticale, la quatrième dimension, dans le monde éthérique, dans le monde vital. Dans le monde vital se trouve notre corps vital. Ce corps vital est celui qui garantit l'existence, la vie de notre corps physique. Dans le monde physique, nous avons alors l'énergie, la vie, depuis que le corps vital nous les en donne. Alors, sans le corps vital, la vie n'existerait pas. Ici, dans l'Arnos, nous disons que ce sont quatre énergies ou éthers qui forment le corps vital. Et chaque énergie, chaque éther, est en relation avec certaines fonctions de notre vie. Nous avons un éther de vie qui est en relation avec la reproduction de l'espèce, le processus de reproduction. Nous avons un autre éther lumineux qui est en relation avec notre imagination et notre volonté. Nous avons un autre éther réflecteur qui est en relation avec nos perceptions et nos extra-perceptions. Et nous avons encore un autre éther chimique qui lui est en relation avec les changements de notre organisme, c'est-à-dire avec notre métabolisme. sans ces quatre énergies, sans ces quatre éthers, la vie serait impossible. Si quelqu'un pouvait nous enlever notre corps vital, nous mourrions dans l'instant. Parce que chaque atome de notre corps vital sature chaque atome de notre corps physique. Et c'est ce qui garantit l'existence de notre corps physique. C'est pour cette raison que les maladies apparaissent d'abord dans le corps vital et descendent ensuite dans le corps physique. Le cancer, par exemple, est-ce que c'est par un virus de la quatrième dimension? Et ces virus se développent dans les corps qui sont pauvres et en catalase de cuivre. Ces corps sont le résultat de l'abus de nos énergies créatrices pendant une ancienne ou présente existence. Ces virus, que nous appelons le cancro ou grave, se développent dans notre corps vital et comme le corps vital garantit l'existence du corps physique, alors il se produit ces désordres cellulaires que nous appelons les cancers. Toutes les maladies, donc, apparaissent d'abord dans le corps vital. Si un médecin pouvait percevoir le corps vital ou l'aura de ses patients, non pas comme un charlatan, non pas comme un médium ou un spiritiste, non pas comme un beau gendre, comme on le voit de nos jours, qui clame sur tous les toits qu'il est clairvoyant, et un clairvoyant qui se déclare l'être, n'est-ce pas un véritable. C'est quelqu'un qui développe des facultés négatives et non pas positives. Si un médecin donc pouvait percevoir le corps vital ou l'aura de ses patients, il pourrait voir que la maladie est déjà là, avant même qu'elle n'apparaisse dans le corps physique. Voyez-vous l'importance ou l'utilité de la clairvoyance et de le développement de ses facultés supérieures? Un clairvoyant véritable ne dit jamais qu'il voit et ne parle jamais de ce qu'il voit. C'est une de ces exigences principales pour avoir une clairvoyance positive. Si une personne vous dit qu'elle voit votre aura, fouillez aussi loin que vous pouvez. Car l'unique chose que fera cette personne, c'est de vous mettre dans des problèmes. Si une personne vous dit qu'elle voit l'aura, alors soyez sûr qu'elle a développé une faculté négative parce que tant que nous avons de la colère, de l'impatience, de l'intolérance, que nous nous énervons, que nous ne savons pas atteindre, que nous nous angoissons, nous n'aurons pas de clairvoyance positivement développée. Une clairvoyance négativement développée n'est pas utile, elle ne sert à rien, n'est pas précise. La clairvoyance négative se trompe. La clairvoyance négative peut voir différentes choses en même temps et ne pas voir l'essentiel. Ce genre de clairvoyance ne nous convient pas. Si l'un d'entre nous possède cette clairvoyance négative, qu'il voit lorsqu'il ne veut pas voir, un voyant soudain une ombre qui passe furtivement, ou un fantôme sans le vouloir. Il doit perdre ses facultés négatives et développer la clairvoyance positive, qui elle se développe après des années de travail intérieur profond, de sacrifices et de discipline. La clairvoyance positive est une faculté volontaire. Quand on veut boire, on boit. Et quand on ne veut pas boire, on ne voit pas. S'il y a un médecin qui sont ici, en train de nous écouter, pensant développer cette faculté avec de nombreuses années de travail, eh bien, ce sera un médecin extraordinaire parce qu'il pourrait voir dans l'aura de ses patientes les maladies avant qu'elles n'apparaissent dans le monde ou dans le corps physique. Il pourrait donc faire un diagnostic correct. Ce serait un médecin extraordinaire, bien sûr. Il ne dirait jamais qu'il boit en disant « Je bois ton aura et je bois une tache sur ton foie », etc., etc. C'est genre des choses? Non, absolument pas. C'est ce que font les clowns dans le cirque, mais pas les véritables clairvoyants. Alors, ces médecins qui développent son clairvoyance feraient de très bons diagnostics. Il serait un très bon professionnel et il compléterait toutes ses études avec ses facultés latentes, ses facultés internes. Rendez-vous compte, donc, de ce qu'est le corps vital. Le sage Paracelse l'appelait Mumia. C'est pour cette raison que Paracelse fut un médecin extraordinaire parce qu'il ne se limite pas seulement au monde physique, mais il a été capable de voir les différentes dimensions de la nature. Au-delà du corps vital, existe le monde astral. Ce monde astral, qui en a donné de nombreuses et compliquées définitions, ne se trouve pas si loin de nous, mes chers amis. Ce monde astral est la cinquième dimension. Dans la cinquième dimension se trouve le monde astral, et le monde mental, d'accord? Le monde astral correspond donc à la cinquième dimension. Et nous autres, nous, absolument tous, toutes les nuits, nous allons dans le monde astral. Nous sommes reliés au corps astral dans notre corps physique par un cordon qui se nomme le cordon d'argent, le fil de la vie. Le cordon de la vie est un langage sanskrit, il est appelé le cordon d'Antakarana. Ce cordon est énergétique. Il nous lie au corps physique et peut s'allonger indéfiniment. Lorsque nous dormons, notre corps astral se sépare de notre corps physique. Le corps physique reste dans notre lit et parallèlement, dans la quatrième verticale, notre corps vital repart, redonne vie à notre corps physique. Le corps vital travaille en le vivifiant et en le revitalisant. Et ceci, durant la nuit, et comme nos sentiments et nos pensées les gênent dans ce travail, nous devons absolument sortir de ce corps physique. C'est une nécessité physiologique. Il faut que le corps astral s'éneille pour que le corps physique soit réparé par le corps vital en étant aidé par les différentes glandes endocrines, comme la glande thyroïde, qui sécrète certaines hormones qui nettoie nos canaux nerveux. C'est donc une nécessité. Notre corps astral doit sortir de notre corps physique, et cela toutes les nuits. Ce n'est pas du tout dangereux, et nous le faisons toutes les nuits, mais nous le faisons d'une façon inconsciente. Nous ne savons pas que nous nous trouvons dans l'astral. Nous ne nous rendons même pas compte que nous sommes en train de rêver. À part des rares exceptions, nous ne nous en rendons pas compte. Si certaines personnes se sont dites en voyant quelque chose de très bizarre, lorsqu'ils rêvaient, « Je rêve !» ils disent. « Là, je suis en train de rêver !» C'est qu'elle en était inconsciente à ce moment-là. Elle était consciente de ce que nous avons toujours fait inconsciemment. Et ce n'est pas du tout dangereux. Ce n'est pas du tout dangereux. Il est impossible aussi qu'une autre personne puisse se glisser dans notre corps physique lorsque l'on est dans l'astral. Ce n'est que pur mensonge. Ce n'est pas vrai. Cela a été inventé pour que nous continuions à rester hypnotisés, pour que nous continuions à être esclaves de la vie et des dirigeants de ce monde. Les gouvernements ou d'autres personnes différentes qui n'ont pas intérêt à ce que nous éveillons notre conscience. Ils ne veulent pas que nous ayons connaissance de la nature, de l'univers et du cosmos. Ils ne veulent pas. Ils nous préfèrent hypnotiser, ivrogner, luxurieux, adultères, parce qu'ainsi, ils peuvent nous dominer plus facilement. Nous devrions donc éveiller notre conscience dans l'astral, et ce n'est pas du tout dangereux. si nous sommes conscients dans toutes ces que nous faisons. Si, lorsque nous marchons dans la rue, nous restons conscients, c'est moins dangereux parce qu'on a moins de chances de se faire écraser. Si on reste conscient dans notre travail, si les choses se passent mieux dans l'entreprise, on réussit mieux. Que l'on soit médecin, architecte, ingénieur, commerçant, boulanger, boucher, ouvrier, etc. Les choses se passent beaucoup mieux si nous faisons les choses consciemment. Et si nous prenons conscience que nous sommes dans le monde astral, s'ouvrirait alors à nous un monde, une dimension complètement nouvelle pour nous découvrir, pour nous la découvrir. Un monde qui, en réalité, est déjà ouvert, mais dont nous n'avons pas conscience et nous voyageons dans l'astral depuis que nous sommes nés. Les rêves sur le monde astral révèrent c'est sortir en corps astral. Nous sortons donc tous en corps astral. Nous voyageons tous dans ce monde des rêves. Il y a des personnes qui pourraient dire « Cela fait bien 5 ans que je ne rêve pas. » On devrait les corriger et lui dire « Mon ami, dis plutôt que cela fait 5 ans que tu ne te souviens pas de tes rêves. Ce n'est pas que tu ne rêves pas, tu rêves, mais tu ne t'en souviens pas et ça est bien différent. Nous avons une vie si stressante. Nous nous identifions tellement avec le monde, avec le travail, avec les problèmes de la vie, de l'école, des études, que nous ne nous souvenons pas de nos rêves. Que nous ne nous souvenons pas de nos rêves ne veut pas dire que nous ne rêvons pas. Rêver est une sortie astrale et c'est nécessaire. Si le corps astral ne sortait pas du tout, si le corps astral ne sortit pas du corps physique, nous tomberions malades. Alors, à chaque fois que nous nous endormons, nous sortons un corps astral, et c'est que ce soit pendant la nuit, le matin, la journée ou l'après-midi. Il y a des personnes qui ont fait une expérience en restant éveillés, sans dormir, pendant quelques jours. Et il est clair pour la science moderne et pour les médecins, pour la médecine, que faire cela a des conséquences si terribles pour notre cerveau et pour la santé de notre corps physique. Alors, comme vous voyez, c'est une nécessité. C'est une nécessité physiologique. Quand nous dormons, nous sortons dans l'astral et personne ne peut entrer dans notre corps physique. Personne ne peut pas nous substituer. Nous ne resterons pas perdus dans l'astral, etc. Ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Si quelqu'un nous réveille brusquement, si quelqu'un bouge notre corps physique, il ne se passe rien. Nous ne mourrons pas. Simplement, le corps astral revient dans le corps physique et c'est tout. On se réveille. On ouvre les yeux physiques dans son corps physique et c'est tout. Le monde astral est un monde de symboles, de mythes. Le monde astral a le même langage que les légendes. Que les mythes, comme les mythes de la création des Aztèques par exemple, ou les mythes de Pégase dans les mythologies grecques, ou comme les mythes des divins jumeaux dans les Popol Vuh, ou comme les mythes d'Isis et d'Osiris chez les Égyptiens. C'est un langage merveilleux avec lequel nous parlent les légendes et les mythes. Le langage est le même que celui des rêves. C'est un langage pareil à le langage de la mythologie. Dans les différentes cultures du monde entier, on ne peut pas les interpréter littéralement. La mythologie des peuples anciens et la symbologie de nos rêves ont un symbolisme, ont une interprétation. Parfois, un peu revers de notre conjoint qui nous trompe avec notre personne. On se réveille et on lui fait une comédie, un drame, en lui disant « Tout était qu'avec cette femme. Je l'ai vue dans mon rêve. » Mes amis, les rêves, il faut les interpréter. Les personnes à qui nous rêvons ne représentent pas ces personnes. Ce sont des symboles qui prennent la forme de celles-ci. Alors, il faut apprendre à interpréter nos rêves. Pour ce faire, nous vous recommandons le cours sur les rêves sur notre site, dans la section des cours pour apprendre à les interpréter, parce que les instructeurs n'interprètent pas de toutes les rêves. Chacun doit interpréter son propre rêve, car ils correspondent à ce que nous vivons personnellement dans notre vie de tous les jours. Vous devez apprendre comment interpréter vos propres rêves. Si durant la journée, quelqu'un a eu un problème avec sa belle-mère ou un membre de sa famille, avec son patron ou avec un professeur à l'école ou avec un ami, il se peut que durant la nuit suivante, il rêve par exemple d'un taureau furieux. Nous, les instructeurs, nous ne connaissons pas la vie personnelle de chacun ou les problèmes personnels de chacun. S'ils ont, eux, un problème avec le patron qui les a réprimandés, ou s'ils ont, eux, un problème avec un frère ou une sœur ou la belle-mère, nous ne le savons pas. Alors, ces rêves où l'on se voit lutter contre un taureau furieux est en relation avec ce qu'il s'est passé dans la journée. Personne ne peut donc interpréter les rêves des personnes. Chacun de nous doit apprendre à les interpréter lui-même, et c'est pour cette raison que ces cours sur les rêves que nous vous recommandons existent pour vous aider à apprendre tout cela. Le monde des rêves est donc symbolique, parabolique. Il n'est pas littéral, il est symbolique. Il se traite des paraboles d'interprétation. Il faut apprendre à interpréter ses expériences. Tout se trouve à l'intérieur de nous. Celui qui réussit à avoir une expérience consciente dans le monde astral doit aussi apprendre à l'interpréter. À l'interpréter avec la loi des analogies, la loi des ressemblances, des correspondances, avec la loi du contraire et la loi des numéros. Vous pouvez demander aussi les cours sur la cavale qui se trouve dans notre section des cours sur notre website. Nous devons ainsi arriver à comprendre de plus en plus ce monde des rêves. Ce monde des rêves n'est c'est l'éternité, où le présent, le passé et le futur sont réunis dans un éternel présent. Nous pourrions alors aller voir une expérience passée, en étant conscient bien sûr. Lorsque nous rêvons simplement, nous rêvons et puis c'est tout. On a pu voir un film ou entendre inconsciemment un coup de tonnerre qui est capté par le subconscient et nous en rêvons. Et voilà, c'est tout. Si nous éveillons notre conscience, on pourrait aller dans le passé et voir une vie antérieure et savoir ce que nous fûmes dans nos vies passées et connaître le pouvoir de notre existence présente, parce que notre vie présente est le résultat de notre vie antérieure, et c'est ainsi. Nous pourrions aussi étudier l'histoire du monde et ne pas accepter que l'on nous dise que l'on descend du singe ou de l'orang-outan, ou que l'on nous dise que l'être humain n'existe sur la Terre que depuis 1 million d'années seulement, ou que l'être humain n'a pas vécu avec des dinosaures. On pourrait ainsi se rendre compte de beaucoup de choses dans l'astral, en étant consciente, bien sûr. On pourrait aussi voir le futur. Les jeunes filles pourraient savoir, par exemple, quel sera l'homme qui sera son mari, et ne plus le chercher en sortant avec de nombreux hommes, ce qui n'est pas correct. Nous pourrions voir qui sera notre partenaire et l'atteindre sans perdre notre temps en cherchant d'ailleurs. Nous pourrions savoir tellement de choses, mais cela, on n'arrive pas du jour au lendemain. On ne décide pas de le faire la nuit même, non. Ce sont des choses qui se font après des mois, des années de travail quotidien, et parfois durant des mois et des mois, mais sûrement pas du jour au lendemain. Donc, mes amis, il faut beaucoup de travail pour réveiller notre conscience, Mais soyez certain que celui qui éveille sa conscience dans le monde physique l'éveille aussi dans le monde des rêves et donc dans le monde astral. Celui qui ne s'identifie pas avec toutes les choses de la vie dans le monde physique alors peut avoir la faculté d'éveiller sa conscience dans le monde astral. Dans le monde astral, nous pourrions assister par exemple à des enseignements supérieurs dans des temples merveilleux de la loge blanche ou de la fraternité blanche, où se trouvent des maîtres comme Bouddha, Quetzalcoatl, Hermès Trismégiste. Ils pourraient nous donner des enseignements de manière directe. Il ne faut en aucun cas parler de nos expériences astrales. Cela n'est rare des personnes. C'est très personnel, individuel, particulier. Comme nous avons encore le mois de l'orgueil et de la vanité en nous, en parlant de ces expériences, notre personne, ce mois s'est fortifié et comme ils ont des vibrations très denses, cela nous ferait perdre ses facultés. Et puis, personne ne va s'intéresser à ces études, même si on leur dit que l'on peut sortir en astral. Non, mes amis, ce sont des choses qui doivent rester toujours personnelles. Si on a un jour une expérience, cela ne regarde personne. C'est très personnel, c'est tout. Ce sont des connaissances, des enseignements qui se donnent, des bouches oreilles, c'est tout. Nous pourrions aussi étudier nos défauts psychologiques, les affronter. Dans le monde astral, les mois psychologiques se personnifient en entités monstrueuses et horripilantes. Et nous pourrions voir par exemple ces mois de l'orgueil qui nous abondent. La boire en face de nous, nous pourrions connaître de mieux en mieux cette légion des défauts psychologiques qui nous caractérise. Nous pourrions parler aussi avec notre père et mère qui sont en secret, père et mère divin intérieur, parce que nous avons tous un père et une mère spirituelle. Alors, nous pourrions être guidés, ils sont nos gourous véritables spirituels et nous pourrions être assistés par eux. Ici, dans le monde physique, ils nous assistent, bien sûr, mais dans le monde astral, nous pourrions converser avec eux. Le monde astral est régi par la Lune. C'est pour cela que les sorties astrales conscientes sont plus faciles en Lune montante, en Lune croissante, et plus difficiles dans les périodes de la Lune décroissante. Et non descendante. On pourrait donc profiter de cela, même si on le fait toutes les nuits, mais en une montante, croissante, c'est plus facile, parce que le monde astral est régi par la Lune et que la loi de la gravité n'existe pas. Il existe un exercice très facile, c'est de faire un petit saut avec l'intention de sauter chaque fois que l'on voit quelque chose de bizarre. Et à force de le faire dans le monde physique, à force de la répétition, on le fera dans le monde astral. Et là, dans le monde astral, on va flotter. Et au moment même où nous nous rendons compte que nous sommes dans l'astral, il faut rapidement appeler notre père et notre mère intérieure pour qu'ils nous mènent là où nous avons besoin d'aller, où nous méritons d'aller. Ce sont eux qui vont savoir si l'on doit revoir ou m'y passer, si nous devons aller sur une planète comme Vénus, par exemple, pour la connaître. Si nous devons aller connaître notre culture dans son époque de splendeur comme celle des Mayas, des Égyptiens, des Incas, des Andus, et connaître leurs mystères. Si nous devons recevoir ces enseignements d'un maître, etc. C'est ce que nous vous recommandons de faire. Nous pouvons donc recevoir l'expérience mystique directe et alors avoir la foi véritable. Non pas des croyances, mais la foi qui est la connaissance directe. Au-delà du monde astral, il y a le monde mental. Dans la Kabbale hébraïque, il est appelé Netzach. Beaucoup de maladies viennent précisément du monde mental et elles se cristallisent dans notre cerveau physique. C'est pour cela que de nos jours, on a pu beaucoup avancèrent dans la guérison des maladies mentales. parce que leur cause, leur origine vient du monde mental. Le déséquilibre est ce que nous faisons et qui affecte le monde mental. C'est le monde mental, le monde de Netzach. Au-delà du monde mental, il y a le monde des causes naturelles, le monde de la musique. Ici, un des maîtres qui a pris un corps physique pour nous instruire fut Beethoven. C'est pour cela que nous vous recommandons grandement la musique de Beethoven, parce que cette musique, comme le disait Pythagore, est la musique des sphères. C'est un maître du monde des causes naturelles, le monde de la musique, le monde du est issu le tout, le monde de Tiferet, et il est régi par Vénus. Au-delà du monde des causes, il y a le monde de la conscience, le monde des bouddhis, le monde de l'âme, c'est le monde de la conscience. Au-delà de ce monde régi par le soleil, il y a le monde de l'être, l'Atman, l'ineffable, régi par Mars. Ce monde, Atman, Gandhi nous le fait connaître. On appelait Gandhi le Mahatma. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Gandhi, mais Maha signifie grand, enand, et Atma veut dire âme ou être. Ainsi donc, Mahatma signifie le grand être. C'est ce qualificatif, que l'on donna à Gandhi. Tout ceci pour que vous ayez une idée de ce qu'Atman symbolise. C'est l'être, le monde de l'intime, c'est le monde des mathématiques. Dans ce monde, on pourrait connaître le monde d'atomes qu'il y a dans une table. Combien de personnes se sont autoréalisées? Quel karma doit une nation, un pays? Tout cela se trouve dans le monde d'Atman. C'est le monde des mathématiques, et les mathématiques sont sacrées. C'est pour cette raison que Pythagore n'admettait personne dans son école ésotérique s'il ne connaissait pas les mathématiques. C'est donc le monde de l'être, le monde de l'intime. Voilà, mes amis, réellement, nous ignorons beaucoup de choses sur nous-mêmes et sur la nature qui nous entoure. C'est pour cette raison que nous vous invitons à commencer ces études pour découvrir cette beauté de l'âme de la nature, ignorée par nous à cause de nos sens dégénérés. Mais tout ceci nous est ouvert si nous les proposons en ayant beaucoup de ténacité, de constance, de force, de foi, et de dévotion dans cet enseignement. Voilà, mes amis, c'était notre conférence d'aujourd'hui. La bibliographie que nous vous recommandons pour cette conférence, c'est le livre des morts. Lisez-les avec attention. Il est dans la section des livres par les maîtres Samael Aumbeor sur notre website www.samaelgnosis.net pour mieux comprendre les dimensions de la nature. Vous pouvez le télécharger. Vous pourrez trouver aussi beaucoup d'informations sur les éléments de la nature dont nous avons parlé dans le livre « En regardant les mystères » avec ses 18 chapitres si merveilleux, et ainsi approfondir ce que nous avons partagé aujourd'hui. Chers amis, merci beaucoup pour nous accompagner aujourd'hui. Ayez-vous un très bon week-end. À bientôt.